Carrefour.
Quand vous me dites...
Ah, moi je l'ai toujours dit, dans la vie, il n'y a pas de mal à se faire plaisir.
Eh bien, ça me donne envie de vous dire qu'il y a 68% de remise immédiate sur le deuxième produit Durex acheté. Et c'est valable sur tout Durex. Du coup...
Oh, ben comme ça, tout le monde est content.
Et c'est jusqu'au 7 juillet, chez Carrefour, Carrefour Market et leur Drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher. Détails sur carrefour.fr. Dispositif médical, pour plus d'informations, consultez la notice.
Vous écoutez
RMC.
Le témoin RMC.
Avec vous, Olivier Babot, bonjour. Vous êtes
bonjour.
Économiste, vous êtes président de l'Institut Sapiens. Vous savez bien faire fonctionner la calculette et on va essayer d'y voir plus clair avec vous sur la question du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est encore aujourd'hui loin devant la sécurité et l'immigration ou la santé dans les préoccupations, les premières préoccupations des Français. Plusieurs mesures emblématiques. Du côté du RN, on parle d'une TVA réduite sur les prix de l'énergie qui serait mise en place immédiatement dans les semaines qui viennent. Et Jordan Bardella a évoqué hier le chiffre de 10 à 15 euros immédiatement de ristourne sur un plein. Est-ce que c'est juste et est-ce que ça profite vraiment aux consommateurs?
Alors, du point de vue fiscal, il faut savoir que quand vous mettez un litre, évidemment, dans votre voiture, il y a effectivement à peu près 50 à 60% du prix qui est de la taxe. Vous avez même une TVA qui taxe la taxe, d'ailleurs. Hein, c'est assez rigolo, le système.
On a une
Donc,
taxe
effectivement,
sur la taxe.
Si on imagine que les distributeurs répercutent, ce qui est une des grandes questions, d'ailleurs, parce que un producteur, il n'est pas obligé, quand il va vendre, de répercuter la différence.
Ah oui, il pourrait garder.
Il pourrait
c'est
garder.
Un peu l'histoire de la fameuse TVA réduite sur la restauration.
Exactement, où on sait que ça a reconstitué des marges.
Qui s'était pas tellement traduite dans une baisse des menus.
Exactement. Mais là, on peut imaginer qu'il y ait une forme de contrôle qui soit possible. C'est les grands acteurs, on peut regarder. Donc ça fait effectivement une baisse des prix tout de suite. Évidemment, seulement pour les gens qui consomment des hydrocarbures.
Mais vous mettez déjà en garde en disant, attention, ça peut aussi quand même profiter à Total, par exemple.
Ça peut. Alors, je sais que hier, dans le débat notamment, Jordan Bardella a indiqué que il allait essayer de... Enfin, l'idée était de vérifier, évidemment, de contrôler que ça n'était pas transformé en marge. Voilà.
Alors ça, c'est du côté du RN. Du côté du Nouveau Front Populaire, on parle du blocage des prix. Même question, est-ce que oui ou non, ça a un vrai impact sur le portefeuille des Français?
Alors peut-être, à très court terme, c'est peut-être possible. À long terme, ou enfin au moyen terme, assez rapidement, le blocage des prix, ça a en général une conséquence très très claire, c'est la pénurie en fait. Hein. Parce que c'est pas parce que vous allez fixer le prix du pain à tant d'euros que ça va multiplier les miches de pain. C'est-à-dire à un moment donné, le rapport offre-demande, malheureusement, il va faire que les prix, que l'intérêt à produire sera probablement pas là. Ou alors, ça veut dire que l'État doit avoir financé la différence entre le prix idéal pour le consommateur.
On bloque à quel moment ? C'est-à-dire on bloque à quel niveau ?
Et puis quel est le bon niveau du prix, effectivement, pour quel type de consommation ? Enfin, dans l'histoire, hein, tous les blocages de prix, créer alors soit du pénurie, soit des surproductions. Et là, l'idée évidemment qui est annoncée derrière, c'est que l'État va essayer de compenser.
Dans les gains immédiats pour les électeurs consommateurs, si je puis me permettre, dans cette course-là, le parti d'Emmanuel Macron, par la voix de Gabriel Attal, disent que eux, ils veulent pas promettre la lune. Ils le disent d'ailleurs comme ça, mais ils proposent quand même de tripler la prime Macron, la prime du pouvoir d'achat, disent-ils, jusqu'à 10 000 euros. Ça concerne qui et est-ce que c'est réservé aux grandes entreprises?
Non, c'est la prime euro, Macron, elle est ouverte à toutes les entreprises qui sont capables de distribuer une prime donc de fin d'année qui va avoir le grand avantage d'être entièrement non soumise à cotisation, donc elle va arriver directement dans la poche évidemment du salarié. Donc ça peut être toutes les tailles d'entreprise, encore faut-il avoir la capacité de le faire. Alors l'un des reproches qu'on fait souvent à la prime Macron, c'est que elle intervient en substitution d'une hausse de salaire parce qu'effectivement elle est plus commode, elle permet d'avoir moins de différence entre le super brut et le net si vous voulez.
C'est-à-dire que effectivement certaines entreprises pourraient être tentées de choisir la prime plutôt que la hausse de salaire.
Bah, une prime qui serait si importante parce que jusque là, si je me trompe pas, elle est entre 1000 et 2000 euros. Hein,
elle était passée éventuellement à 3000 et désormais voilà. Elle serait donc triplée, voilà. Un peu plus que triplée puisque elle irait jusqu'à 10 000 euros.
Un montant comme ça pourrait avoir cet effet effectivement de se substituer à une hausse de salaire parce que c'est quand même évidemment.
À l'inverse d'ailleurs, Jordan Bardella dit une hausse de 10% du salaire.
Non soumise à cotisation.
C'est-à-dire que voilà. C'est le pendant un peu de cette prime, c'est que pour le coup, ce serait plutôt une hausse de salaire. Et s'il y a une hausse de salaire, l'entreprise n'est pas soumise à cotisation sur ces 10% de hausse. On est d'accord ?
Exactement. Ce qui est censé effectivement rendre plus intéressante une augmentation, puisqu'il y a moins de ce qu'on appelle le coin fiscalo-social. C'est-à-dire il y a moins de différence entre ce que va payer l'employeur et ce qui va être vraiment dans la poche du salarié.
Olivier Babot, je voudrais encore qu'on essaye d'y voir clair sur d'autres points, et notamment sur ces 14 tranches d'imposition évoquée par le... Ah, je sens que vous-même, vous n'y voyez pas très clair. Aujourd'hui, on est d'accord, il y a 5 tranches d'impôt sur le revenu. Il y en aurait 14 demain.
La tranche marginale supérieure étant à 45%.
Hein. Donc ça veut dire que le max, c'est 45%.
Oui, alors, sauf qu'on ne le sait pas, mais il y a déjà ce qu'on appelle la taxe Fillon sur les très hauts revenus, qui est une taxe de 4% en plus.
D'accord, déjà, donc en réalité, on peut arriver à 49%.
On est quasiment à 49, voilà. À 49,
d'accord,
voilà.
Et ces 14 tranches d'imposition, elles iraient d'où, jusqu'où et à quel taux?
Alors, elles partent de zéro, évidemment, jusqu'à... Alors, de ce qui est indiqué, parce qu'ils n'ont pas donné le tableau, mais enfin, on peut aller se reporter au tableau qui avait été publié en 2022 dans quand c'était déjà l'un des projets des Insoumis,
de LFI. Ça vient vraiment d'LFI.
Absolument. Alors, est-ce que si on imagine que c'est celui-là et qu'il n'est pas amendé, et ben, en fait, ça monte à partir de 400 000 à 100%, tout simplement. Voilà, à partir de 400 000, c'est 100% de prélèvement.
Alors, ça veut dire que en dessous de 400 000.
Alors, on monte assez rapidement. Moi, j'ai noté à 70 000 euros par an de revenus. Non, probablement brut, hein, vous êtes à 50% de prélèvement, donc vous êtes déjà au-dessus.
Donc en fait, quand vous gagnez 70 000 euros,
Gagnez que 35 000.
Vous n'en touchez en réalité que 35 000.
Que 35 000.
D'accord.
Avec une autre subtilité qui est que on veut soumettre à cotisation plein de revenus qui jusque-là ne l'étaient pas.
Attendez, je voudrais quand même aller jusqu'au bout. Donc ça, sur les histoires de tranches, donc ça, 70 000 euros, vous payez 50%, donc à partir de 70 000 euros.
Et à 400 000, vous ne touchez jamais plus de 400 000.
Vous ne touchez jamais plus de 400 000.
Sauf qu'à 400 000, un peu avant, on a une tranche de 90%. Donc déjà, vous ne touchez pas 400 000. Vous touchez de toute façon beaucoup moins.
D'accord. Donc au-dessus de. Voilà, vers les 200 000, on vous prend 90%. Donc ça, c'est sur les 14 tranches. Et vous disiez des impôts également sur des revenus qui n'étaient pas taxés jusqu'à présent.
C'est-à-dire qu'on va soumettre à cotisation sociale des revenus qui n'étaient pas soumis. Par exemple, les dividendes, les participations, l'épargne salariale, les heures supplémentaires. Ça veut dire que...
Les heures supplémentaires aussi, ça, c'est fini.
Voilà, donc tout ça. Mais donc ça veut dire que c'est des gens qui peuvent avoir des revenus potentiellement beaucoup plus modestes, d'ailleurs, hein, qui vont jusqu'à là, qui avaient un peu d'épargne salariale et qui, du coup, vont payer les cotisations, ce qui va baisser, évidemment, le net. On peut dire que c'est du revenu différé.
Et à cela, Mathilde Panot disait lundi que ce serait compensé par des hausses de salaire.
Oui, parce que l'idée aussi, c'est de faire une conférence sur l'augmentation des salaires. C'est évidemment le SMIC pour les salaires les plus bas qui serait à 1600 euros. Et dans l'idée, évidemment, c'est que ça compenserait. Évidemment, c'est le projet, en tout cas.
C'est le projet. Merci, Olivier Babot. On y voit un peu plus clair grâce à vous.